Donc, les quatre idées fondamentales qui développent la nécessité du refuge. Ça aurait pu être 5 idées, 6, 2, je ne sais pas. On peut en opter pour une seule idée fondamentale, en comprendre le sens. Et là aussi, il y a un lien de cause à effet. En comprendre le sens intellectuellement, et ensuite le méditer pour que ça devienne une prise de conscience. D'accord. Cette prise de conscience aura une vertu qui est trouver une nécessité à l'aspiration. D'accord. Donc, de façon traditionnelle, on dit les quatre idées fondamentales permettent de renoncer au samsara. C'est-à-dire de se détourner, tourner le dos. Renoncer, c'est pas renier, c'est pas se priver de quoi que ce soit. C'est tourner le dos, d'accord, à l'illusion. On renonce à l'illusion, ça c'est... Attention, hein. Il n'y a pas lieu de renoncer à quoi que ce soit d'autre qu'à l'illusion. Alors on peut se faire de l'illusion dans l'argent, mais on ne renonce pas à l'argent. Vous voyez, hein. On peut s'illusionner dans la richesse, et finalement, ça devient de l'avidité. Et l'avidité, c'est une pathologie due à une illusion. D'accord ? Donc on renonce à l'illusion. On ne renonce pas aux objets, aux choses, aux situations, à un mode de vie non plus. D'accord ? On peut être végétarien et complètement illusoire, dans l'illusion totale. D'accord ? Alors ça peut sembler vertueux, d'accord ? Mais ça peut être bourré d'illusions. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on va finir ? Ben, puriste, intégriste, végétariste. D'accord ? Qui est prêt à tuer des gens qui mangeraient de la viande, par exemple. Vous voyez ? L'illusion peut amener jusqu'à cela. La racine des démons, c'est l'illusion. D'accord ? Attention. Hein. On ne va pas évacuer des démons, on ne va pas les... Comment on peut dire ? Il ne s'agit pas de les contrecarrer, mais... On ne va pas les dissiper, je ne sais pas comment dire. D'accord. Si on reste dans l'illusion.
Donc ça veut dire qu'il faut plus travailler l'illusion.
Ah ben c'est ça le projet de l'éveil. L'éveil c'est une désillusion. Hein. D'accord. Hein. Il y a l'éveil total où il n'y a plus du tout d'illusion. Et puis sinon il y a des petits éveils. D'accord.
Ah oui, il y a des petits éveils.
Ben, progressivement, oui. Dès qu'il y a une désillusion, c'est un éveil. Éveil, c'est sortir de s'extraire de son état de veille dans lequel on était. D'accord ? Par exemple, l'état de veille d'un ordinateur, il donne l'illusion qu'il est éteint. D'accord ? Ben non, il est en veille. Et on s'extrait de cet état de veille, un petit coup dans la souris, hop, prise de conscience. Tu réalises, dans cette prise de conscience, bien sûr, si c'est amené, hein, tu réalises une désillusion, un malentendu. Voilà, une méprise, et ben ça y est, tu t'es éveillé de ton malentendu. D'accord ? L'éveil, c'est juste réaliser qu'on avait une illusion, et la désillusion est coémergente à la connaissance d'une illusion. D'accord ? On dit l'ignorance est coémergente à l'éveil. D'accord ? Il n'y a pas deux instants. Et quand tu dissipes un malentendu, une illusion, quelle qu'elle soit, tu es dans une coémergence. D'accord ? Au moment même où tu t'aperçois qu'il y avait une illusion, tu en es désillusionné. D'accord ? C'est le sens de coémergence, encore, une sahaja. La première coémergence, c'est ignorance et éveil coémergent. Tu ne peux pas faire deux instants. Bon, alors, maintenant je sais que c'est un malentendu et maintenant je vais attendre d'être désillusionné. D'accord ? C'est pas possible. D'accord ? Alors, il y a le grand éveil, si vous voulez, hein, qu'on peut prétendre appeler ça Bouddha. D'accord? Samyak Sambuddhaya, totalement, complètement, hein, éveillé. D'accord? Mais ça reste une désillusion. Une désillusion sur nos saisies, etc. Hein, les plus subtils. Mais même jeune, on se fait des illusions sur l'amour, peut-être, ou hein, sur des choses, sur la télévision. Un petit jeune qui fait des illusions, voilà, on en a fait. Hein. Une réflexion peut amener à une désillusion. Une réflexion peut amener à une désillusion. D'accord ? C'est, voilà, la raison. Une illusion, c'est irrationnel, c'est un déraisonnement. D'accord ? Alors ça crée les croyances, les compensations, les satisfactions, les complaisances, les paresses d'esprit, hein, etc. L'opacité, hein, toutes ces opacités.
Une
paresse d'esprit.
C'est quoi ça?
Eh bien, tu ne fais pas usage de tes capacités cognitives, tu ne fais pas usage de raisonnement. C'est une paresse d'esprit, une léthargie. Les paresses intellectuelles, les paresses d'esprit, voilà. Toutes ces illusions, hein, s'appuient sur l'ignorance fondamentale et une ignorance délibérée qui est l'opacité mentale. C'est-à-dire faire en sorte de s'opacifier, d'accord, pour ne pas envisager qu'on est dans l'ignorance.
C'est des subtilités qui se cachent, ça aussi.
Oui, c'est subtil.
Ça peut être conscient.
Non. Non. On ne s'illusionne pas consciemment. C'est contradictoire, ça. Mais il y a une délibération hein, sous la forme des impulsions karmiques et des erreurs d'appréciation.
Là, c'est là que ça se cache. C'est là que ça se cache, les erreurs.
Par exemple, je prends toujours l'exemple du marteau et du clou. D'accord ? On se tape dessus. Bien sûr, c'est pas, t'as pas délibéré consciemment de te taper dessus. Mais tu as mis toutes les causes pour que tu vas te taper dessus. D'accord ? C'est de notre ressort, par manque d'attention. D'accord ? L'ignorance est le fait d'une inadvertance constante, continue. Tu arrêtes cette inadvertance, tu as l'éveil. Inadvertance, de chaque instant de conscience. Oui. L'ignorance, c'est pas été un moment zéro de notre existence, d'accord ? Il n'y a pas de commencement à notre faculté cognitive, à notre conscience, à notre esprit. Ignorance, hein, c'est une non-connaissance, hein, comme le nom se dit, hein, non-gnose, hein, de chaque instant. Et à chaque instant, on a la capacité de s'éveiller. D'accord ? Ça, c'est l'affirmation de toutes les voies directes, le Mahamudra, Sahaja, le Dzogchen, le Zazen, le Satori, hein, du Zazen. Hein. C'est subi. C'est direct. D'accord ? Mais ça ne se fait pas par miracle comme ça. Il faut y mettre toutes les conditions. Et pour arriver à mettre toutes les conditions, ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Mais l'éveil, lui, est subi. Pardon ?
Cultiver.
Il faut cultiver, c'est ça la pratique. Et on s'entraîne.
Hein.
On y met des graines, etc. On y voit nos erreurs. On passe par des voies où on voit nos erreurs. D'accord ? Et à nous de savoir les admettre, confesser, si on veut, les admettre, et se dire, il faut que je les corrige. Si on a une aspiration, on aura une facilité à vouloir corriger. Sinon, on reste dans nos erreurs. Si on n'a pas d'aspiration, un cap, d'accord ? On voit nos erreurs et on n'a pas envie d'être doit avoir une vie honnête, une honnêteté intellectuelle. Ben, on va trouver un mécanisme subconscient qui va trouver prétexte à ses erreurs. Oui, mais si je me suis trompé, c'est à cause de toi. Ou à cause du monde. Oui, mais c'est à cause de Dieu, c'est à cause des Bouddhas. D'accord ? Admettre une erreur et ensuite se décider de la corriger. Pourquoi on se décide de la corriger ? Parce que nos aspirations, c'est d'être honnête. D'accord ? L'éveil, c'est être honnête. C'est la base. Et être suffisamment décomplexé pour dire que l'erreur est humaine, si j'ose dire. L'erreur participe d'un cheminement. Si on voit une erreur, waouh, super. Dans la voie de la méditation, on se voit en erreur de méditation. C'est tout ce qu'on fait.
Hein? C'est des moments de grâce.
Oui, quand tu es conscient d'un moment d'erreur, surtout dans la méditation, eh ben, y a plus l'erreur. C'est co-émergent. Hein? D'accord? Méditer, c'est faire découvrir, hein, mettre à jour des mécanismes d'erreur. Comme bricoler, c'est mettre à jour des mécanismes d'erreur qui fait qu'un jour, on se tapera plus sur les doigts avec le marteau. D'accord ? C'est un apprentissage. Donc, ces quatre idées fondamentales font partie des deuxièmes préliminaires qui vont permettre de développer la nécessité du refuge, sous-entendu l'aspiration. Vers quoi on tend comme étant un refuge ? Donc on va faire la première méditation, la précieuse condition humaine, et on alternera au fur et à mesure du séjour. J'ai obtenu une existence humaine. C'est une chance inouïe pour donner sens à ma vie. Conscient de cette précieuse condition, je goûte le prix de chaque instant. Sachant que tous les êtres souhaitent le bonheur, chaque rencontre est digne de considération. Sachant ma mort comme l'échéance irrévocable de cette vie, l'aspiration est d'autant plus noble. Aussi, je me consacre à cet instant même et dans les perspectives de toutes mes vies futures au service de l'éveil et d'autrui. Donc on peut prendre un temps pour méditer. Donc là, c'est des instructions, vous ferez ça seul avec vous-même. D'accord ? Et la construction, hein, de chaque idée fondamentale est faite d'une cause et d'un effet. D'accord ? La cause, c'est comprendre l'idée, cette précieuse existence humaine, intellectuellement, en comprendre le sens. Ensuite, voir au quotidien, hein, qu'effectivement, c'est précieux, le constater, hein, l'expérimenter, et ensuite l'intégrer par la force de la méditation. L'intégration d'une idée, hein, d'un concept, crée donc une prise de conscience. Pour certains, ça va être très fulgurant, c'est une révélation pour certains, d'accord ? Les débutants, des fois, là, ça fait une révélation. Puis après, c'est simple rappel de prise de conscience, quoi. Pour des personnes qui n'ont jamais envisagé, d'accord, et on n'a pas besoin d'être bouddhiste pour l'envisager, hein, d'accord, la précieuse existence humaine. Hein. Mais si les personnes l'ont jamais envisagé, puis un jour, ils méditent, puis un moment, wow, prise de conscience avec illumination, il se croit éveillé, etc. Quand il y a une prise de conscience, effectivement, il y a un voile qui s'efface. Mais ce qui est intéressant ici, c'est dans la phénoménologie, le dharma, la phénoménologie cognitive, c'est que cette prise de conscience aboutit à un effet vertueux. Cette prise de conscience est vertueuse. D'accord ? Même la prise de conscience de l'impermanence et la mort est vertueuse, et pas morbide. D'accord ? Hein ? Si on médite bien. Et si l'effet est vertueux, ça veut dire qu'on a bien médité.
D'ailleurs, je viens de noter cette phrase là dans mon carnet qui est « Sachant ma mort comme l'échéance irrévocable de cette vie, voilà. »
Ah oui.
Déjà, bon, ça calme bien.
Ça calme, hein. Mais c'est vertueux. Si à la fin de plusieurs années de pratique, on devient déprimé, c'est qu'on n'a pas mis en place une bonne réflexion. D'accord ? Donc il faut se surveiller constamment dans les effets de nos méditations. Hein ? D'accord ? Mais surtout, il faut avoir des effets. Si on n'a pas d'effets, on adopte juste une opinion, d'accord ? Ça ne va pas. Hein, quand je parle d'effets, c'est... Hein, à la suite d'une prise de conscience, il y a un effet escompté qu'on appelle renoncement. Mais je préfère dire une résolution. Renoncement, pour beaucoup de gens, c'est se priver de plein de choses. Hein, d'accord ? Et sous prétexte que je me prive, je vais m'éveiller. Vous voyez ? Là, c'est un démon. D'accord ? Le démon... une illusion, donc... Alors, c'est une illusion, hein, et quand ça prend la forme d'un démon, c'est une illusion qui s'est gangrénée, hein, qui a pourri sur place. Ça fige, etc. Et c'est le retour de bâton qui est violent. C'est pour ça qu'on parle de démons. Il faut les provoquer, il faut les faire venir avant qu'on n'en soit pas maître. Ça nous tombe dessus. D'accord. Les démons, sont, là, même dans les primaires, on travaille les démons. Ou alors, ça peut être prophylactique, on va dire. On va prévenir qu'il n'y en ait pas. D'accord ? On n'est pas obligé d'avoir des démons. Hein, d'accord ? Hein ? Selon la diversité des naissances. D'accord ? Mais c'est bien aussi, en attendant d'être éveillé, hein, de prévenir qu'il n'y en ait pas dans cette vie qui viennent s'immiscer. D'accord ? Ça va ? Hein ? Donc, il ne faut pas négliger les préliminaires. C'est parce qu'on ne va pas visualiser des monstres avec des dents, des grosses dents, machin, méchant, hein, qu'on ne travaille pas nos démons. Il y a des parts de démons, mais il y a des choses encore suffisamment soft dans notre conscience, et bien déjà, hein, on va vacciner toute cette zone-là, ne serait-ce qu'avec les préliminaires. Donc prise de conscience, dans ces quatre idées fondamentales, la prise de conscience débouchera par une résolution forte. Je dis résolution pour ne pas dire renoncement. Renoncement, je méfie de ce mot-là, la connotation que ça peut prendre. D'accord ? Moi, je ne me sens pas vraiment un renonçant. Hein. D'accord ? Résolu, oui. Hein. Résolument. D'accord ? Une résolution qui est déjà de l'aspiration.
C'est une volonté, une intensité.
C'est une intensité, c'est dense. C'est intransigeant, exigeant. D'accord ? C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon chrétien, une giration. C'est pas une girouette, c'est une giration à 180 degrés. Une conversion, au bon sens du terme. D'accord ? Et c'est pour ça que c'est une nécessité au refuge, à l'aspiration. C'est-à-dire, c'est une résolution, comme je le dis, qui sait à quoi dire non. Ce nom qu'on retrouve dans renoncement, si vous voulez, on sait, avec ces quatre idées fondamentales, à un moment, dire à quoi dire non. D'accord ? Et dans le même temps, c'est là qu'il faut après développer l'aspiration, parce qu'il faut aussi savoir à quoi dire oui. Et ça, c'est l'aspiration. D'accord ? Et les deux vont de pair.
C'est plus en disant oui que l'autre va disparaître ?
Non, il n'y a pas à disparaître. C'est une dynamique, une synergie, hein, qui doit s'intégrer comme un yin-yang. C'est un couple de forces. Ce couple de forces, c'est le renoncement peut nous amener à 180 degrés si, dans l'autre sens, on prend une aspiration. S'il n'y a pas d'aspiration, ton renoncement, bah, ta giration fait que tu vas être girouette. tu veux avoir une période de vie, ben, je renonce aux femmes. Bon, ben non, finalement, je me suis pas plus éveillé, enfin bon, ça me sert à rien, hein, etc. Et puis après, je renonce à la viande, je renonce à ça. La démarche, c'est louable hein, de renoncer aux femmes éventuellement, hein, j'étais moine, hein, d'accord. Il y a quelque chose de louable, d'accord. Mais si c'est juste pour, parce que c'est pas bien, le rapport sexuel est impropre, ça va pas, d'accord. Là, on renie quelque chose, d'accord. Hein, et on se violence éventuellement. Et le retour est très, très violent, hein, d'accord. Donc attention. Hein. Et donc, une girouette, hein. Giration, c'est. Comment, pourquoi ce sera une giration, non pas, on ne deviendra pas une girouette. Bon, aujourd'hui, je renonce à ça, je renonce à ça. Oh ben, je renonce à ça. On va se renier. Oui. Et dans renoncement, c'est se renier, un reniement aussi. Nos penchants naturels, et pourquoi pas. Oui. Vous voyez, si c'est fait avec reniement, on ne se sent pas bien. On peut être frustré. D'accord. Et créer des frustrations, etc. Et puis, on peut. Le démon va se dire non, c'est, tu ne vas pas voir ça comme une frustration, un comme une foi, une passion, hein, etc.
Ça devient un support
au
démon.
Un serviteur, un guerrier, des performances, un héroïsme. Oh, tu es un héros, tu renonces à la viande, wow, c'est héroïque, hein, etc. Vous voyez. Pour montrer, pour déjouer les illusions. Hein. Et derrière ces illusions peut se cacher un démon, un futur démon. Le démon, il faut le localiser très rapidement. Certains sont déjà immiscés depuis des vies antérieures, hein, dans des vies antérieures. Et quand on renaît, ben, on renaît avec certains démons qui sont bien en place. Hein. Qui gouverne beaucoup de nos pulsions, etc. D'accord. Alors, effectivement, on a un petit bagage de démons, mais tout n'est pas démoniaque. D'accord. Alors, il y a des parties soft, pures, etc. Donc, bien sûr, là, le travail, c'est après, bien sûr, bien cibler ceux qui sont bien en place, là, les bons démons, etc. Mais avec ces préliminaires, on va en préventif, en proxylétique, prophylactique, pardon, hein, un préventif. D'accord. Et éventuellement, peut-être mettre à jour un démon, hein, pourquoi pas. Il n'y a pas besoin de toujours se faire des grands mahakalas. Hein, ou, voilà. Des fois, on n'aime pas se confronter aux quatre idées fondamentales. Oui, à méditer quatre idées fondamentales, et beaucoup de gens, non, mais c'est bon, j'ai compris, je sais, ouais, je suis mortel. Non, là, tu fuis quelque chose. Ah. Donc, c'est peut-être intéressant de voir aussi pourquoi on néglige tant les préliminaires. Donc cette résolution aura besoin d'une aspiration et l'aspiration aura besoin d'une résolution ou renoncement. Vous voyez, c'est là qui fera, ça sera une ligne à 180 degrés et cette ligne deviendra notre rail. On va être sur un rail, un chemin. Et on aura déterminé un cap qu'on appelle le refuge, l'éveil, d'accord, voilà. Et on aura déterminé un autre cap qu'il faut fuir, enfin fuir, ouais, presque, hein, l'illusion. D'accord. La ligne du chemin, c'est illusion, je tourne le dos à l'illusion, je vais vers la désillusion. Je tourne le dos à l'obscurité mentale, d'accord, et je fais face à la luminosité mentale. Ce rail-là est déterminant. D'accord.
Ça nécessite une vigilance de tout instant.
La pratique de chaque instant, oui. Et ça, c'est le fond de la pratique. Hein. À quoi on dit non, à quoi on dit oui. Et c'est une synergie. D'accord. Si on entend bien ce mot renoncement par résolution, dire non à l'illusion. D'accord. Et on n'impute pas à des objets le fait que ce serait les objets qui nous illusionnent. Pour certains, ce serait la femme qui nous illusionne, pour les autres, c'est l'homme. Ce qui nous illusionne, c'est d'être humain, vous voyez, hein, etc. C'est le monde, hein, c'est la politique, c'est... Non. D'accord. Mettre un objet, hein, imputer un objet qui nous illusionnerait, ça va créer des démons. Et on va devenir éventuellement même fondamentaliste, intégriste, etc. On va être nous-mêmes, alors là, des démons. D'accord ? Où on estimera, mais si c'est ça qui fait nos illusions, c'est ça qui est la cause de nos souffrances, hein, il faut le bannir, d'accord, etc. Et puis après, on va l'imposer aux autres, hein, parce qu'on est sûr d'être dans le vrai.
C'est dans les moments de confrontation qu'on se sent stable ou pas.
Oui. Renoncement, aspiration, hein. Résolution, aspiration, hein. C'est ce qui va donner une ligne droite. Et bien sûr, ça n'existe pas comme ça. Hein. Mais comme en navigation, on quitte un port pour aller vers un autre port. D'accord ? Et on a un cap. Et après, c'est savoir naviguer, hein, pour utiliser les vents. Et bien nous, on va utiliser aussi la navigation au gré de nos vents, de nos souffles, nos humeurs d'âme, nos impulsions, nos émotions. D'accord ? Mais il faut avoir à l'esprit le cap. On garde le cap. Mais la ligne droite, ça n'existe pas en tant que telle. D'accord ?
Mais c'est le cap.
Ben, on revient, bien sûr, sur une ligne droite virtuelle, idéale, hein, etc. D'accord ? Mais la réalité de la vie, elle n'est pas comme ça. Bien sûr, il faut revisiter nos renoncements, il faut revisiter nos aspirations. Finalement, l'objectif se redéfinit plus clairement, parce qu'au début, ça peut être un gros fantasme à l'éveil. Hein, d'accord ? L'illusion, c'est pas trop de quoi ça retourne non plus, voilà. Hein. Mais par contre, voilà, toujours passer, hein, réaffirmer son aspiration, réaffirmer son renoncement. C'est pour ça qu'on a des vœux, des engagements, pour nous aider à avoir un garde-fou pour pas trop partir en vrille, quoi.
Déjà définir l'objectif, oui.
Oui, dans les vœux de refuge, hein, ouais. On a des vœux. C'est pour recadrer notre aspiration. Dans les racines aussi, hein, les trois racines du Vajrayana, hein, c'est pour nous protéger. Hein. On prend pas refuge dans une divinité, on prend refuge dans le Yidam, c'est une vue qu'on a sur la divinité, l'union, clarté, vacuité. Si on prend refuge dans une divinité, on est théiste ou déiste, hein, d'accord. Si on prend une vue dans le Yidam, on est bouddhiste, d'accord. Le Yidam, c'est la vue de l'union, clarté, vacuité, d'une représentation qu'on appelle une divinité, mais on peut très bien dire une icône. Une idole n'a pas de réalité propre, cette divinité. Donc tous les engagements qu'on prend quand on fait la cérémonie de refuge, c'est pour bien trouver ce rail, d'accord ? Mais il y aura toujours des coups de vent, hein, etc. Mais comme on sait qu'il y a une ligne directrice, on sera corrigé. D'accord ? Donc, prise de conscience, hein, pour toute méthode, hein, du dharma, il y a une causalité, comme l'a enseigné le Bouddha Sakyamuni, hein, il y a une causalité du dharma en tant que méthode. D'accord ? Et c'est à nous d'établir, de mettre en place des causes vertueuses, c'est-à-dire qui auront la vertu de nous éveiller. Et l'effet, si on met des causes vertueuses à l'éveil, eh ben on aura un effet vertueux à l'éveil. Et éventuellement, l'ultime effet, ou qui sera l'éveil lui-même. D'accord ?
Vertueux à l'éveil, ça veut dire que l'éveil peut être invertueux ou
non ? Non. Des causes qui seront propices hein, à l'éveil. Vertueux, ça veut dire qu'il y a la force, le pouvoir de. D'accord? Comme une tisane. Cette tisane a la vertu de calmer. D'accord? C'est pas une question de moralisme, c'est une question d'efficacité. D'accord? Hein, on est dans une philosophie, hein, hein, une phénoménologique. Hein, on cherche l'efficacité. D'accord? Mais pour avoir une efficacité, il faut diagnostiquer les symptômes. Diagnostiquer l'illusion. Et dans la démarche où on veut travailler les démons, ben, diagnostiquer les démons. Mais comment diagnostiquer un démon? Il faut déjà en avoir une description. Comment ça se... Hein? Les premiers chirurgiens, je ne sais plus qui, Ambroise Paré, je crois, hein, qui a découvert les microbes. D'accord? Mais il a diagnostiqué des choses. Mais c'est pas normal. On ampute, ça pourrit la jambe, vous voyez? Je crois que c'est Ambroise Paré, le premier, hein, qui a commencé à aseptiser. D'accord. D'accord. Après, on les a vus plus tard, les microbes. Et ben, pour les démons, c'est pareil. Il faut déjà, hein, ce que je vous explique, là, c'est pour commencer à diagnostiquer, voir des symptômes, d'accord, hein, envisager, hein, qu'on met des causes qui ne sont pas très vertueuses, c'est-à-dire propices à l'éveil. Il faut vraiment utiliser le mot vertueux et non vertueux, plutôt que le bien et le mal, négatif, positif. C'est litigieux toujours ces mots-là. Vertueux, c'est clair, hein, hein, qui a le pouvoir de. Vous voulez le pouvoir de quoi? Ben, j'aspire à l'éveil. Bon, ben, le pouvoir de s'éveiller. Vous voulez être méchant? Ben, il y a des choses vertueuses à la méchanceté, hein, qui a le pouvoir de vous rendre méchant.
Oui, ça serait peut-être une bonne idée, ça, de regarder déjà, tiens...
Oui. D'où l'importance de la ligne directrice, hein, la ligne du sens, ce qu'on place derrière soi, ce qu'on place devant soi, sur quelle ligne. Et elle change, hein. Enfin, l'image qu'on a de l'aspiration se modifie au fur et à mesure de nos pratiques. Notre représentation de ce qu'est l'éveil, de ce que ça veut dire, voilà. Et de ce que ça veut dire les illusions aussi. Donc, cause et effet, hein, une prise de conscience sur un concept, une idée, un concept, hein, ça a une valeur d'éveil. Hein, d'accord? Et la résolution va être vertueuse. Si elle n'est pas vertueuse, interrogez-vous. Ou aidez-vous d'un instructeur, d'accord, ou d'amis, discutez-en. Voilà. Si on médite la mort, ça devient morbide, déprimant, etc. C'est un problème. C'est que notre réflexion, hein, est déjà connotée de certitude. D'accord, que la mort, c'est la fin en soi. Alors, c'est subconscient. C'est dans le subconscient. D'accord, on ne le voit pas que finalement, hein, on est fataliste à la mort. D'accord, et on se dit, oui, mais je suis bouddhiste quand même. Attention. Il faut savoir donc, hein, déjouer ces mécanismes. Et à force de méditer, et à force de revisiter les effets de nos méditations, d'accord, on va affiner notre aspiration, nos renoncements. Il faut être comme un consommateur. On dit consomme-acteur. Ah, d'accord? C'est-à-dire, vous achetez une boîte de cassoulet, la première chose, c'est que ça doit être bon, mais ensuite, aussi nourrir, et ainsi de suite. Si ces effets-là ne sont pas là, vous ne la rachetez pas, cette boîte.
Mais si j'achète une boîte de cassoulet et que j'attends le goût de la choucroute, ça ne va pas le faire.
Aussi, voilà, voilà. Ah, c'est ça. Donc, on consomme des méthodes, d'accord? Enfin, on achète des méthodes, sinon, quelqu'un vous les vend, si j'ose dire. Il y a un commerce, une transmission, c'est un commerce, hein, d'accord? Et ensuite, on doit savoir qu'est-ce que j'exige de ma consommation, qu'est-ce que j'attends? Voilà. Eh ben, est-ce que vous refusez? Renoncement, je me refuse à l'illusion. D'accord? Je me refuse d'être séduit simplement par la publicité, l'étiquette, le prix éventuellement. Hein? D'accord? Donc, jamais oublier hein, qu'une pratique, c'est un lien de cause à effet aussi. D'accord? Et il n'y a pas de miracle. On aura les effets qu'on mérite.
D'accord ? De toute façon, aussi, ça reste défini, ça.
Oui, c'est vrai, je peux nuancer. Mais grosso modo...
Les effets qu'on mérite, c'est très bizarre, ça.
C'est-à-dire que les effets sont dus aux causes qu'on aura mises en place. Mais en attendant, pour avoir, être certain d'avoir tous les éléments pour mettre des bonnes causes en place, effectivement, il faut s'en remettre à l'enseignant. Non pas à l'enseignement, à son enseignement. Pardon. C'est une des garanties que demande Sakyamuni, s'en remettre à l'enseignement et non pas à l'enseignant. C'est-à-dire, quel que soit le titre de l'enseignant, si vous ne comprenez pas, vous lui posez une question. C'est ce que j'entends souvent des gens. Oui, mais lui, c'est un Rinpoché, je ne vais pas lui poser la question, etc. Oui. Et si il est là, si ça doit prendre une heure, vous exigez. Si vous m'expliquez mieux, je ne comprends pas. Ou c'est pas clair, votre truc, voilà. Là, je radote, hein, vous avez déjà entendu le dire. Et donc, effectivement, c'est un peu fort de dire vous avez les effets que vous méritez, bien sûr, mais attention, avant, pour avoir les bonnes causes, être sûr d'avoir bien compris les causes qu'il faut mettre en place, d'accord, il faut avoir l'exigence de l'écoute de l'enseignement. C'est la première chose, l'écoute de l'enseignement. Vous devez écouter, et quand vous ne comprenez pas le sens d'un mot, vous demandez le sens du mot, et ainsi de suite. Première garantie enseignée par le Sakyamuni, s'en remettre au sens et non pas au mot, au sens du mot. Et ce sens définit une fonction cognitive, d'accord, que vous pouvez reconnaître après dans la méditation. D'accord ? Oui.
C'est pas dans ce sens-là.
Oui, oui,
non.
Tout à fait, oui, tout à fait. Il y a une conséquence, quoi. Donc voilà pour les quatre idées fondamentales.